Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Deuxième chose sur laquelle je veux attirer votre attention, en reformulant ce que la première partie du verset dit. Quand tu as ce que tu veux, sois heureux. Quand tu n'as pas ce que tu veux, réfléchis. Ce texte m'a profondément parlé parce que je me suis rendu compte que si Salomon dit que Dieu fait le jour du bonheur et le jour du malheur, le texte ne dit pas que Dieu fait le malheur ou le bonheur. Le texte dit que Dieu fait le jour du bonheur et le jour du malheur pour que l'homme ne découvre en rien ce qui est après lui. Donc Dieu veut garder le futur caché. Mais la Bible dit au jour du bonheur, sois heureux, donc sois dans le bonheur. Mais le texte dit au jour du malheur, ne sois pas malheureux. Ça veut dire que le jour du malheur n'est pas une raison pour être malheureux. Dieu n'a jamais prévu que tu sois malheureuse. Même en faisant le jour du malheur, la seule raison pour laquelle Dieu a fabriqué un jour du malheur, c'est parce qu'il sait qu'il y a des réflexions que tu n'auras jamais dans le bonheur. Quand tu n'as pas ce que tu veux, ne pleure pas, ne crie pas, ne casse rien, ne maudis personne. Quand tu n'as pas ce que tu veux, réfléchis. Réfléchis. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des réflexions que nous n'avons eues que pendant la Covid? Moi, l'une des choses que j'ai identifiées pendant la Covid, c'est les fuites d'argent. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, vous ne remarquez pas lorsqu'il y a des fuites. Parce que l'argent rentre, moins que ça ne sort. Mais quand vous êtes dans une période de crise, parce que l'argent rentre moins que ça ne sort, à un moment, vous cherchez à empêcher qu'il ne sorte. Et c'est là que tu te rends compte que tu payes un abonnement que tu n'utilises pas. Tu payes un abonnement de sport qui ne te sert à rien. Mais ça continue. Un abonnement à Canal, tu ne regardes plus la télé. Tu es tout le temps sur YouTube, tu es tout le temps sur TikTok. Quel est le moment où vous cherchez les pièces? Ce n'est pas quand l'argent rentre à flot. Vous cherchez les pièces quand vous êtes en crise financière. Et c'est là où tu te dis, oh, il y avait un billet de 500 dans l'ancien pantalon, l'ancien portefeuille. Ça dit que tu vas fouiller tous les sacs, tu vas fouiller tous les portefeuilles. Tu vas chercher dans les poches parce que... Sinon toi, on sait comment ça se passe quand tu as l'argent. Ça dit que tu dis garde la monnaie. Garde la monnaie. Quand il n'y a pas de monnaie à garder. Ça dit que vraiment... J'ai payé le service, rendez-moi ma monnaie. Parce que je ne sais pas comment je vais rentrer, rendez-moi ma monnaie. Je crois que c'est en ayant la bonne attitude durant l'attente que nous pouvons réfléchir et nous poser les bonnes questions. Voyez-vous, si je parle de bonnes questions, c'est que je considère qu'il y a de mauvaises questions. Je vais vous donner un... Je voudrais allumer la lumière, mettre la lumière sur une vérité. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, en tout cas les gens que je côtoie au fil des années, je me suis rendu compte que très peu de personnes font la différence entre réfléchir et s'inquiéter. Alors, juste pour vous, j'ai écrit ce qui suit. Réfléchir, c'est penser aux choses que nous pouvons changer. Tu utilises ta matière grise pour pouvoir penser aux choses sur lesquelles tu peux avoir un contrôle. S'inquiéter, c'est penser aux choses que nous ne pouvons pas changer. À ce moment, tu prends le temps à penser à quelque chose qui échappe à ton contrôle. Vous me suivez ou pas? Il y a des questions que vous devez éviter de vous poser. Par exemple, j'entends quelques personnes dire assez souvent « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ?» C'est pas une bonne question. Pourquoi moi? Pourquoi pas aux autres? C'est pas une bonne question. Pourquoi quand c'est moi qui fais, c'est toujours difficile? C'est pas une bonne question. Surtout quand tu es dans l'attente. Le genre de question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je peux apprendre pendant que j'attends? Il y a donc une différence entre l'attente passive et l'attente active. C'est l'évêque général qui a l'habitude de dire qu'on n'attend pas une prophétie comme on attend le train. Quoi que tu fasses, le train va venir. Tu attends passivement. Rien de ce que tu fais ne peut emmener le train à arriver plus vite ou à être retardé dans son arrivée. Ça, c'est l'attente passive. Mais en ce qui concerne la cuisson, par exemple, il y a des choses que tu peux faire pour retarder, ralentir la cuisson ou l'accélérer. Est-ce que vous voyez? Troisièmement, l'attente bâtit la patience, construit la patience. Le pasteur Charles Stanley a dit ce qui suit, je cite, « Notre volonté d'attendre révèle la valeur que nous accordons à l'objet que nous attendons. » Fin de citation. Écoutez-moi bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus la chose est précieuse, normalement plus on est d'accord d'attendre. Ça va dans l'autre sens. Quand tu n'es pas d'accord d'attendre, c'est que tu considères que cette chose a peu de valeur. Quand tu es d'accord d'attendre, ta patience ou ton attente met de la valeur sur la chose que tu attends. Quand tu n'es pas d'accord d'attendre, c'est que tu es en train d'enlever à la chose la valeur qu'elle est supposée avoir. Jacques 1, 2, Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. On va lire ensemble 1, 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Restons là d'abord. Relisons 1, 2, 3. Dieu dit, quand tu manques de joie, regarde à tes épreuves. Et il dit, tu dois regarder comme un sujet de joie. Ça veut dire que quand tu regardes à comment tu souffres, tu dois dire, hé, mon Dieu, je suis béni. Dieu même, tu dois regarder comme un sujet de joie les épreuves. Pas comme un sujet de malheur, pas comme un sujet de tristesse. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est à toi que la Bible parle. Maintenant, pourquoi? La suite du verset. Verset 3, lisons. Ce qui doit t'emmener à regarder tes épreuves comme un sujet de joie, c'est que tu sais que quand tu es éprouvé, ça va produire la patience. Ça veut dire que la patience n'est pas le fruit d'autre chose que des épreuves. Mon Dieu, mon roi. Tu ne peux donc pas développer de la patience sans épreuve. Il y a des choses que tu n'auras pas parce que Dieu essaye de bâtir la patience en toi. Mais il n'y arrive pas à cause de ton attitude pendant l'attente. Verset 4. 1, 2, 3. Mais il faut que la patience... Je vais vous dire ça dans un français plus simple. Dieu te regarde souffrir, il t'aime et puis il ne fait rien. Parce que il ne te permet pas de passer par là pour te tuer, mais pour te bâtir. Il sait que là où tu vas, si tu es impatient, tu ne tiendras pas. Donc Dieu se dit, vous savez, il est un peu comme notre père. Dieu est comme l'évêque général, un peu. L'évêque général n'est pas bougé par les larmes. par la douleur. Par... C'est-à-dire, c'est comme si tu fais, il te regarde et puis il dit, tu as fini. Ça vous est arrivé d'avoir l'impression que Dieu vous observe souffrir, pleurer, bouder, taper du poing, je ne sers plus, je ne donne plus, je ne fais plus. Et puis Dieu fait et puis il dit, tu as fini. Parce qu'à la fin de tout, c'est à toi-même que tu fais du tort. Parce que là où je veux t'emmener, je suis d'accord de ne pas t'y emmener comme ça. Pas comme ça, pas comme ça. Oui, mais Seigneur, ça fait 1 an que j'attends, ça fait 2 ans que j'attends, ça fait 10 ans que j'attends. Oui, mais tant que je ne vois pas la patience, tu ne bouges pas. Tu vas reprendre la classe. Tu vas redoubler. Il y a beaucoup de redoublants à l'église. De la vie. Beaucoup. Beaucoup. Ça fait 10 ans que Dieu essaie de t'apprendre cette leçon et toi, tu jures. Moi. Impatiente. Impatient. Quand tu n'as pas ce que tu veux, quand tu veux, tu es comme un enfant. Hébreux 6, 11 à 12. C'est le prochain point. L'attente éprouve notre persévérance. L'attente éprouve notre persévérance. Hébreux 6, 11 à 12. Lisons. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui est la persévérance. Alors, soulignez si c'est votre Bible que les promesses ne se tiennent pas que par la foi. À la foi, il faut associer, ajouter la persévérance. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'auras pas si tu as seulement la foi. À la foi, il faut ajouter la persévérance. Et malheureusement, peu de gens aujourd'hui veulent être persévérants. Aller à contre-courant de ce qui est la norme. Tenir ferme face au vent du découragement, de la tristesse, de la dépression. Rester debout contre vents et marées. Accepter de croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si sa bouche l'a dit, sa main va le faire. Alors je ne sais pas comment il va le faire, mais j'ai décidé de croire que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Quand ce que Dieu me dit est en désaccord avec ce que les hommes me disent, ce sont les hommes qui mentent. Quand ce que Dieu me dit est en désaccord avec ce que la science me dit, c'est la science qui ment. Quand ce que Dieu me dit est en désaccord avec ce que mon compte en banque dit, c'est mon compte en banque qui ment. Quand ce que Dieu me dit est en désaccord avec ce que mon corps dit, c'est mon corps qui ment. Quand ce que Dieu me dit est en désaccord avec ce que je ressens, c'est ce que je ressens qui ment. Tu dois arrêter de mettre tes émotions au-dessus de Dieu. Arrêter de mettre la parole du docteur au-dessus de Dieu. Arrêter de mettre la parole du banquier ou du gestionnaire au-dessus de Dieu. Arrêter de mettre la parole des hommes au-dessus de Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Nous servons un Dieu qui ne consulte pas la Banque mondiale pour décider de te bénir. Nous servons un Dieu qui ne consulte pas le compte en banque de ton père ou de ta mère pour payer tes études. Nous servons un Dieu qui ne consulte aucun homme pour t'élever. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Tu viens contre moi au nom de l'Éternel avec la lance et le javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Écoutez, je veux vous dire la vérité. Les hommes sont changeants. Les hommes, avec grand H, sont changeants. Quelqu'un aujourd'hui est capable de te dire « Je ne te donnerai jamais ». Et la même bouche qui a dit « Je ne te donnerai jamais », quelques temps plus tard, te dit « Viens chercher ». Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il t'a dit A et le moment où il t'a dit B? Le facteur Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui incline les cœurs à gauche et à droite comme il veut. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable d'utiliser ton ennemi pour te bénir. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable d'emmener ton bailleur à dire « Oublie ce que tu me dois ». Il y a... Parle à deux, trois personnes à côté de toi, dis-lui, recommence à faire confiance à Dieu. C'est pas le bon voisin, c'est pas la bonne voisine. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, recommence à faire confiance à Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Révérend Guy, le corps ment. Oh mon Dieu, mon roi. Je veux vous dire la vérité, le corps ment. Parfois tu sens comme si ton corps va te lâcher. Rappelle à ton corps que ce n'est pas toi qui as été créé pour lui. C'est lui qui a été créé pour toi. Et tu dois servir Dieu et tu ne peux pas le servir. Rappelle-lui qu'il est le temple du Saint-Esprit. Rappelle-lui qu'à un moment, il doit arrêter de tomber malade. Je parlais meurtrissure de Jésus. J'ai été guéri. Les gens qui ne vous aiment pas ne vous connaissent pas. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui ne vous aiment pas aujourd'hui, mais donnez-leur du temps. C'est eux qui vont dire hey, « Hé, la grande, hé, hey, le grand. » Ils vont même t'appeler maman, ils vont t'appeler papa. Parce que le temps révèle, le temps change les ennemis en alliés, le temps. Regarde quelqu'un, dis-lui, donne-toi du temps, donne-toi du temps, donne-toi du temps. Encore un peu de temps, encore. Mon Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. Que les musiciens montent. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je dis encore un peu de temps, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Hébreux 10, 35 à 36. Fais grâce, on va prier. Hébreux 10, 35 à 36. Kaladabaladabaha. Intekali debaha. Et bembe bozizo. Ya. Hébreux 10, 35 à 36. Lisons 1, 2, 3. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, écoutez-moi bien, la persévérance, mon frère, est donc un outil pour m'aider à accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est qu'après avoir accompli la volonté de Dieu que je peux obtenir ce qui m'est promis. Je vais te dire ça dans l'autre sens. Toi, tu dis à Dieu, donne-moi et je ferai. Dieu te dit, fais et tu auras. Seigneur, si tu accomplis la promesse que tu m'as faite, voici ce que je veux faire. Dieu dit non, accomplis d'abord ma volonté et tu obtiendras ce que je t'ai promis. Et beaucoup d'entre vous, quand vous êtes dans la période de l'attente, c'est là que vous jurez que vous n'allez plus faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu veux montrer à Dieu que tu es tellement fâché. Que tu cherches même comment le blesser. Comme si Dieu pouvait être blessé. Dieu n'est pas un homme, ni une femme. On ne peut pas blesser Dieu. Il ne faut pas suivre. Dieu n'est pas manipulable. Dieu n'est pas influençable. Dieu n'est pas ton... Bref. camarade. La persévérance est donc indispensable à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Mon prochain point. Oui, je suis bientôt fini. Mon prochain point. L'attente peut, P-E-U-T, peut rendre humble. Pas l'attente va, non, c'est pas vrai. C'est pas toujours. L'attente peut rendre humble. Alors, voici ce que j'ai écrit. Toujours avoir ce qu'on veut, quand on veut, peut nous emmener à penser que tout nous est dû. Ce genre de situation peut conduire au type de société dans laquelle nous vivons. Une société dans laquelle des adultes n'acceptent pas qu'on leur dise non. Il y a des gens, vous n'aimez pas ça. Quand on t'a dit non, c'est comme si on avait tué tes parents. Il représente le mal que décrit Salomon lorsqu'il parle d'esclaves sur des chevaux et de la folie qui occupe les postes élevés. L'une des choses que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est le fait d'avoir une bonne attitude, et je vais essayer de vous dire ces choses. Essayer, c'est le fait d'avoir une bonne attitude avant d'avoir ce qu'ils veulent. Suivez-moi. Ça veut dire que avant qu'on te donne ce que tu veux, l'attitude peut faire qu'on ne te donne pas ce que tu veux. Et donc là, l'une des choses que je leur demande de pratiquer, c'est quand ils disent « je veux ». J'ai dit « tu veux », ce n'est pas la bonne formule. Parce que moi, je ne donne pas aux gens qui disent « je veux ». Je leur demande de citer la relation qui les unit avec la personne et d'associer, s'il te plaît, par exemple, tata, est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît. Quand j'entends je veux, ça s'arrête là, change. Et quelqu'un va dire c'est un enfant, il parle son langage. Non, c'est maintenant qu'on doit lui apprendre à dire. Écoutez-moi, il y a des adultes, vous parlez en ordre, pas en demande. Vous parlez en instruction comme si ce que vous demandez vous est dû. Maman, est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Maman, je veux, est-ce que je peux boire, s'il te plaît? Maman, est-ce que je peux avoir le gâteau, s'il te plaît? Papa, est-ce que je peux dormir avec toi, s'il te plaît? Quand tu viens, tu sautes. Tu fais quoi là? Parce que ça c'est avant. Ensuite, j'insiste sur le fait que quand ils ont ce qu'ils veulent, il y a une attitude. Ils savent savoir dire merci. Et il faut savoir dire merci en regardant la personne dans les yeux. Papa, est-ce que je peux avoir le téléphone? Tiens. Quand il a le téléphone, il part. Non, 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 reviens ici avec le téléphone que je t'ai donné. Dis merci. Merci. Non, 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 regarde-moi dans les yeux et dis merci. Merci, papa. Merci qui? Merci, papa. Tu peux partir avec le téléphone. Beaucoup d'entre vous, vous vous comportez comme les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ne savent pas revenir sur leurs pas pour dire merci. Et c'est l'une des choses qui rallonge votre temps d'attente. L'attitude, l'attitude, l'attitude. Et la dernière chose que j'essaie de leur apprendre toujours en rapport avec ça, c'est surtout, même quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ce que je dis, quand je le dis aux adultes aussi, parce que pas juste aux enfants. Vous savez, l'une des choses qui est difficile pour un parent, pour un leader, parfois c'est de conduire la personne qu'on conduit en ayant le sentiment qu'on doit se battre avec elle pour la conduire. C'est-à-dire c'est vouloir aider quelqu'un et puis tu deviens son ennemi parce que tu veux l'aider. Hein? L'une des choses que j'essaie de dire à mes enfants, quand je... Papa, est-ce que je peux avoir? Ils ont commencé, puisque j'ai dit, redis, il dit. Et puis je dis maintenant, quand il a bien formulé, je lui dis, non. C'est-à-dire qu'il a, d'abord j'insiste sur la formulation, quand il a bien formulé, ensuite je dis, non. Quand je dis non, il pleure, tourne. J'ai dit, écoute-moi mon petit, dans la vie là, on n'a pas tout ce qu'on veut. On va te dire non. Et tu dois apprendre à encaisser non. Ne pas pleurer, ne pas bouder. Ou ne pas le prendre de force. Je vais vous raconter une histoire. Genèse 34, 1 à 8. Je dois vous montrer ça. On va lire, c'est un peu long. Et puis, c'est pas grave. Si je ne termine pas, je ne troquerai pas le message. Mais cette histoire, vous devez la voir. Parce que ça va vous marquer. Je prie que ça n'arrive à aucun d'entre vous. Je ne parle pas de l'histoire en elle-même, mais de l'état d'esprit. Alors, lisons 1, 2, 3. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Verset 2. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Verset 4. Et Sichem dit à Hamor son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Verset 5. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Verset 9. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez... Stop, on va s'arrêter là à cause du temps. Alors, je vous raconte la suite parce que là, vous avez lu cette portion. Ce qui va se passer à la fin de l'histoire, c'est que les fils de Jacob, particulièrement deux, vont dire, « Ok, vous voulez notre sœur ? On ne peut pas donner notre sœur à quelqu'un qui n'est pas circoncis. Mais juste circoncire ne suffit pas, il faut circoncire tous les hommes dans la ville, dans le pays. » Le prince et le roi vont accepter parce qu'ils voulaient de Dina. Et alors qu'ils vont être circoncis, les femmes, vous ne savez pas, pour certaines d'entre vous, mais la circoncision chez des hommes, bon, d'abord ça fait mal chez les petits-enfants, vous voyez, les garçons, mais imaginez des papas, des gaillards, okay, qu'on circoncis pour la première fois. Okay, donc, ils souffrent. Et quand on est circoncis, normalement, si on marche avec une grosse robe, on marche comme ça. Sinon, on ne bouge pas, on est assis ou allongé, en attendant la guérison. Pendant qu'ils vont être au cœur de la douleur, deux des fils de Jacob, qui justement avaient été outrés, vont aller tuer tous les hommes, en commençant par le roi, le prince, ils vont tuer tous les hommes du pays. Donc, Jacob va dire à ses deux fils, « Vraiment, qu'avez-vous fait ? Je ne m'associe pas à ça. » Mais ils ont dit, « Personne ne déshonorera nos sœurs. » Donc vraiment, on acclame pour eux, on est content, on n'acclamait pas, mais on clame pour qu'on ne touche pas à ma sœur. Ok. Ce qui me dérange dans l'histoire, alors que je vous parle de l'attente, c'est que voici quelqu'un qui est mort, qui a fait mourir son père, qui a fait mourir tous les hommes de son pays, parce qu'il ne savait pas attendre. Pourquoi ? Mon texte dit qu'après l'avoir violé, parce que c'est ça, après l'avoir violé, il lui a parlé et elle l'a aimé. Moi, je lui ai dit, tu es ma boule, pardonnez-moi, tu es mal bête, pourquoi tu ne l'as pas draguée d'abord?
C'est-à-dire que si tu avais le verbe pour lui parler et emmener son cœur à s'attacher au tien, tu aurais eu une femme, sauver ta vie, sauver la vie de tous les hommes du pays. Mais c'est parce que tu es le type de prince à qui on ne dit pas non. Et je sais qu'on l'a mal élevé. Parce que quand il va voir son père ne le reprend pas. Pour lui dire, mon fils, qu'as-tu fait? Comment toi qui es prince, tu peux avoir toutes les femmes de la ville? À quel moment tu vas violer une fille? Son père va voir le père de la fille qu'il a violée, sans demander pardon, sans faire amende honorable. Parce que depuis qu'il est petit, on ne lui a pas appris à encaisser un non. Donc toi, parent, qui donne tout ce que ton enfant demande, tu risques, tu peux en faire un prince qui mange dès le matin. Un prince qui ne veut pas qu'on lui dise non. On a des gens dans nos administrations qui prennent de l'argent qui n'est pas à eux parce qu'ils ne savent pas attendre. On a des gens qui considèrent que tout leur est dû parce qu'ils ne savent pas attendre. On a des femmes comme ça. On a des hommes comme ça. Menace quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît. Menace-le. Dis-lui, apprends à attendre. Et puis supporte quand on te dit non, tu ne vas pas mourir. Mais c'est parce que vous ne voulez pas faire preuve d'honnêteté ou de vérité dans la maison. Mais j'ai beaucoup d'entre vous que je connais, vous supportez mal le nom, surtout les femmes. Vous me toisez. Je n'ai pas dit que les hommes supportent mieux que vous. Je dis, je connais beaucoup de femmes qui ont le sentiment qu'on ne doit pas leur dire non. Et ça dépend de l'environnement dans lequel tu as évolué. Moi, je dis non. Depuis que je suis enfant, je suis l'aîné de ma famille. Ma mère distribue quelque chose avec tous les enfants, à tous les enfants. Mes petits frères, mon petit frère et mes petites sœurs ont mangé leur part. Moi, je n'étais pas pressé de manger, j'ai mis ma part au frigidaire. Dans ma maison, okay, la maison dans laquelle j'ai grandi, donc dans la maison de mes parents, tu ne pouvais pas aller au frigidaire, ouvrir, te servir sans demander. Quand ce n'est pas à toi, tu demandes. J'ai grandi dans cet environnement où ce qui est à toi est à toi. Et quand quelqu'un le veut, il te demande. Et tu peux donner ou tu peux dire. Ok. Donc au final, je suis dans l'environnement et un de mes petits frères, petite sœur, vient me voir et me dit, Michel, je vois que tu n'as pas mangé ton dessert, est-ce que je peux l'avoir? J'avais encore le projet de le manger, donc vraiment, sans problème, j'ai dit non, je vais le manger. Elle me dit ok, elle part. Et puis, parce que moi, je ne suis pas pressé dans le fait de manger mes choses ou de mettre mes choses, donc une journée passe. Non, mais ils avaient déjà plu. Mais à un moment, je me retrouve, mon père dit ça, c'est le mauvais cœur, parce que tu veux manger quand ils n'en ont plus. Mais, je vais faire la parenthèse, donc, mais c'était pas ça. Mais, je suis, donc un jour passe, et puis finalement, je veux me lever et je veux manger, mais j'ai plus envie de manger ce dessert. Le problème, j'ai plus envie. Mais là, maintenant, c'est la dernière qui vient, et qui me dit, parce que c'est la dernière, elle me dit, Michel, est-ce que je peux? Je veux plus le manger, mais je peux pas lui dire oui. Je sais que tu ne comprends pas. Mais moi, en tant qu'aîné, je réfléchis comme ça. Si je lui donne à elle, alors que j'ai dit non à l'autre, je crée une égalité et je crée quelque chose dans la tête de l'enfant. Où en fait, je suis en train de lui dire, tu ne mérites pas, mais l'autre mérite. Donc je viens d'établir une inégalité, un complexe, qui n'était pas là. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé. J'ai jeté le dessert. J'ai dit non à tout le monde. J'ai dit non à tout le monde et j'ai jeté le dessert. Parce que je savais qu'à ce moment-là, si je donnais à la dernière, elle allait penser que ça lui est dû parce qu'elle est la dernière. Prochain point. L'attente. Ouais, comme je ne pourrais pas tout finir, donc je vous donne deux points et j'arrête là. L'attente aide à la transformation du caractère. L'attente nous oblige à revoir notre attitude et à changer. Maintenant, on peut changer pour le pire ou pour le meilleur. Mais il y a des situations qui ne peuvent pas vous laisser les mêmes. Il y a des situations, il y a des traumas dans la vie, il y a des situations dramatiques, traumatisantes. Soit vous devenez meilleur, soit vous devenez pire. Ce que nous faisons pendant que nous attendons est ce que nous sommes. Je vais relire ça. Ce que nous faisons pendant que nous attendons, c'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas vouloir être quelque chose dans l'attente et être quelque chose d'autre quand l'attente est finie. Nous devons apprendre à être qui nous sommes d'abord dans l'anonymat avant de le devenir dans la popularité. Je l'ai dit et je le redis, l'anonymat est un don de Dieu pour une saison. J'aurais pu le mettre au début, mais j'ai écrit pour le prochain point que l'attente emmène à dépendre de Dieu. Quand nous sommes obligés d'attendre, nous arrivons à ce moment où ce que nous sommes et ce que nous avons ne suffit plus. Lorsque nous arrivons au bout de nous-mêmes, nous commençons maintenant à compter sur Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous êtes toujours dans la période, nous sommes toujours dans la période de l'attente, parce que pour l'instant, nous comptons sur quelqu'un d'autre que Dieu. Comme Dieu ne partage sa gloire avec personne, Dieu attend que la personne te déçoive. Jusqu'à ce que tu saches qu'il n'y a que Dieu. L'infidélité des hommes révèle, ou du moins révèle, peut emmener à considérer la fidélité de Dieu. La méchanceté des hommes emmène à réaliser la bonté de Dieu. L'attente révèle le potentiel. Lorsque nous sommes dans l'attente, nous pouvons, si nous en faisons le choix, nous pouvons nous mettre en mouvement, quoique étant dans l'attente. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je veux m'arrêter sous peu, mais... L'attente ou le fait d'attendre, et même parfois le fait qu'on vous dise non, peut vous emmener à faire preuve d'ingéniosité et de créativité. Lorsque nous avons la bonne attitude durant l'attente, ça nous oblige à travailler avec ce que nous avons dans les mains. Vous savez, l'une des choses que j'ai remarquées, que je vois aux côtés de notre Père dans le leadership, c'est que parfois les gens veulent qu'on leur donne beaucoup sans avoir développé le peu qu'on leur a déjà donné. Et je me suis rendu compte que parfois, en disant non à quelqu'un, pour le beaucoup, parce que tu as vu que le peu, il ne l'a toujours pas développé, ça l'oblige à repartir considérer ce qu'il a déjà et à voir comment l'utiliser pour atteindre les objectifs. Beaucoup d'entre vous qui dites vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est que vous refusez de le faire avec ce que vous avez. Comprenez ou vous comprenez? Tes moments de créativité et d'ingéniosité ne sont pas arrivés au moment où tu avais tout. C'est souvent quand tu étais dans le manque. Pendant une crise, tu as découvert que tu pouvais faire quelque chose. Je connais des gens qui sont devenus couturiers, pas parce que c'était tracé. La crise. C'est le pasteur Mike Todd qui dit, et je cite, « Tout ce que vous avez, c'est tout ce dont vous avez besoin. » Fin de citation. « All you have is all you need. » Et je finis avec ce point et on prie. L'attente produit au final de la reconnaissance et de la gratitude. L'attente produit au final de la reconnaissance et de la gratitude. Quand vous avez été patient pour quelque chose, lorsque vous la recevez au final, vous êtes reconnaissant. très souvent, quand vous avez mis du temps à avoir quelque chose, vous en prenez soin quand vous la recevez. C'est-à-dire que tu as duré, tu as souffert, puis maintenant tu as. Quand quelqu'un veut toucher à ta chose, tu ne sais pas ce que ça m'a coûté. Je crois que les personnes ingrates sont celles qui ne reconnaissent pas la valeur de ce qu'elles ont et qui ne l'ont pas obtenu au travers de l'attente en gardant la bonne attitude. Est-ce que quelqu'un ici ce soir peut dire, en son âme et conscience, que Dieu l'a toujours fait attendre pour rien? Je reformule. Est-ce que tu es conscient que tu as aujourd'hui des choses pour lesquelles tu as attendu? Des choses qui ont été dans tes sujets de prière. Aujourd'hui, tu les as. Mais ton attitude est devenue une attitude d'ingratitude. Parce que tu attends plus. Mais dans cette attitude d'ingratitude, tu es en train d'emmener, en fait, d'éloigner de toi l'accomplissement, l'exaucement. Parce que toi qui priais, jeûnais, pleurais pour cette opportunité, pour cette personne, pour ce travail, pour ces voyages, pour ces talents, aujourd'hui tu as ces choses. Mais regarde comment tu es ingrat. Regarde comment tu as développé une mauvaise attitude, de telle sorte que maintenant, dès que tu entends un chant de louange, dès qu'on te parle de prier, de jeûner, tu es profondément fermé parce que tu te dis que Dieu te doit. Mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas toi qui dois à Dieu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu par grâce? Il n'y a rien dans ta vie que tu mérites. Ça m'arrive de regarder à nos corps, de nous observer. Est-ce que vous savez qu'on n'a pas choisi notre nez? On n'a pas choisi. Donc, si tu te trouves beau, belle, ça là, c'est la grâce. Le cerveau que tu as qui fonctionne correctement, ton flair dans les affaires, ta capacité à concevoir comme tu conçois, c'est la grâce. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas là où tu veux être. Tu n'as peut-être pas encore ce que tu veux avoir. Mais tu n'es plus là où tu étais. Tu as aujourd'hui ce que tu ne pensais pas avoir. Ça veut dire que normalement, il doit y avoir une attitude de gratitude, de reconnaissance qui entoure ta vie. Rien que quand tu te lèves le matin, ne prends pas pour acquis le fait de te lever. La première chose, ce n'est pas d'aller voir TikTok, Facebook, Instagram. La première chose, c'est de dire « Merci Seigneur, j'ai ouvert les yeux. » Beaucoup d'entre vous ne réalisez pas la qualité de la parole dans la maison. Vous ne réalisez pas la qualité des hommes de Dieu qu'on a. La qualité de la louange. Vous ne réalisez pas combien Dieu nous aime. Vous me suivez? Là, vous êtes venus au culte. On travaille pour qu'à chaque fois que vous veniez à l'église, vous entendiez Dieu vous parler. Vous receviez une parole à propos, que Dieu essuie des larmes, que Dieu réconforte quelqu'un, que Dieu guérisse des corps, que Dieu transforme des vies. Mais tu n'as rien fait pour mériter ça. Certains d'entre vous, vos parents, votre famille n'a jamais voyagé. Tu es le premier à voyager comme tu voyages. Tu as rencontré des gens que personne chez toi ne pensait pouvoir rencontrer un jour. Tu manges avec des gens, tu côtoies des gens. Tu as des vêtements, tu as des choses que tu as. Et même dans les moments difficiles, ton Dieu ne t'a jamais abandonné.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.